Philippe vous présente Alternative, une semaine sur deux, le vendredi à 17h, en alternance avec le samedi à 13h. Il évoquera les pistes différentes qui tentent de résoudre les grands défis de notre époque.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la Sécu, qui est bien malade. Et tout le monde veut la soigner. Pour ce faire, deux mesures principales sont envisagées. D'une part, la politique des génériques. D'autre part, les déremboursements. Or, prescrire moins cher, c'est toujours prescrire. Et dérembourser, c'est prendre le risque de prescription inadéquate, mais remboursée et qui annule les mesures préconisées par les bons docteurs Diafoirus. Il s'agit en fait de prescrire moins et plus intelligemment en considérant que le médecin n'a pas qu'un symptôme en face de lui, mais un individu à prendre dans sa globalité. Il s'agit en fait de prescrire moins et mieux. À cet égard, je suis donc convaincu que la phytothérapie peut être un recours possible, c'est pas le seul, mais c'est un recours, et je vais donc demander au docteur Jean-Michel Morel, chargé de cours à la faculté de médecine de Besançon, de nous éclairer.
Allô.
Allô, bonjour docteur.
Oui, bonjour.
Alors, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions sur la place de la phytothérapie dans la maîtrise des dépenses de soins.
Mm-hmm.
Voilà. Alors, tout d'abord, quelles sont, selon vous, les raisons de favoriser l'intégration de la phytothérapie dans la maîtrise des dépenses de santé ?
Bah, écoutez, les raisons sont très nombreuses. La première, c'est celle que vous avez citée, maîtrise des dépenses de santé, dans la mesure où on sait qu'il y a énormément de dépenses de santé, des sommes colossales, je ne les ai pas sous les yeux, parce que on peut les trouver facilement sur les sites du ministère de la Santé ou de l'OCDE, etc. Mais on ne sait pas trop comment limiter cette dépense. C'est vrai que les médecins ont pris l'habitude de prescrire beaucoup de médicaments, surtout en France, il y a une culture en fait de la prescription médicamenteuse. Le ministère de la Santé a fait la promotion des génériques, c'est très bien. Mais il y a un autre problème, c'est que le générique, c'est toujours du médicament. C'est la même chose, avec un boîtage différent, mais c'est toujours un médicament. Moins cher, certes. Alors le premier point, c'est-à-dire le coût, est légèrement réduit, mais pas suffisamment. Ce que je prétends, je ne suis pas le seul à le prétendre, c'est qu'il y a une mauvaise adéquation entre l'usage des médicaments chimiques et la plupart des pathologies que les médecins rencontrent au quotidien. Quotidiennement, qu'est-ce qu'on va rencontrer ? Bah, des petits problèmes d'insomnie parce que les gens ont eu des problèmes, des soucis familiaux ou professionnels, des problèmes de colopathie, vous savez, le ventre qui fait mal avec des gaz, des ballonnements, etc. Des problèmes de maux de tête, des problèmes de maux divers, enfin, qui ne nécessitent pas des médicaments classiques, qui sont, eux, parfois chers, d'une part, et d'autre part, dangereux. Donc, on peut tout à fait remplacer ça par des formes galéniques, c'est-à-dire des extraits de plantes médicinales. Voilà, donc ça, ce serait le premier point. Le deuxième point, c'est justement ce que je viens d'aborder, la iatrogénie, c'est-à-dire les problèmes d'effets secondaires médicamenteux. Et iatros, ça veut dire le médecin en grec, et donc les effets secondaires médicamenteux qui sont liés à la prescription médicale sont extrêmement nombreux. On estime que 10% des hospitalisations à peu près sont dues à des effets indésirables. Alors qu'avec la phytothérapie, on a très peu d'effets indésirables quand on maîtrise bien ses prescriptions, bien sûr, extrêmement peu. Et puis d'autres raisons sont des raisons plutôt de long terme. Je dirais, une autre raison qui me tient particulièrement à cœur, c'est des raisons de pollution. La pollution médicamenteuse commence à poser vraiment des problèmes. Vous savez, des médicaments comme certains solvants ou d'autres substances qui ne sont pas uniquement médicamenteuses peuvent poser des problèmes de modification hormonale, par exemple. Hein. Ça, c'est un problème qui est grave, alors qu'on n'est qu'au tout début de l'ère industrielle des médicaments. Il faut penser que l'espèce humaine a quelques dizaines de milliers d'années. Et puis nous, on arrive là depuis une cinquantaine d'années à peu près. On a des médicaments manufacturés avec l'introduction maintenant du marketing, etc., de la rentabilité des laboratoires. Et bon, on prescrit, il faut bien le dire, un peu à tort et à travers. Hein. Les laboratoires nous poussent à prescrire. Donc il faut pouvoir restreindre cette prescription effrénée. Voilà, trois raisons déjà principales. Après, on pourra discuter d'autres.
Très bien. Et dans l'un de vos articles, vous parlez de la phytothérapie comme la médecine de demain. Alors, qu'en est-il ?
Alors, pourquoi la médecine de demain ? Bon, je vais pas... C'est volontairement provocateur, si vous voulez. Mais c'est vrai que dans les plantes médicinales, on se rend compte... Alors, quand on cherche, hein, il y a une bibliographie scientifique absolument énorme sur les plantes médicinales, bibliographie déjà assez abondante dans les pays industrialisés, aux États-Unis, en Europe, en Australie, etc., au Canada, mais surtout très très développée dans les pays émergents, comme la Chine, l'Inde, moins dans les pays africains ou d'autres pays, mais surtout la Chine et l'Inde. Il faut dire que ces deux pays sont des pays... à tradition très développée. Donc ils veulent développer leur tradition médicale et surtout ils y mettent les moyens. Énormément de moyens sont développés pour faire des travaux scientifiques fondamentaux et même cliniques à propos des préparations de plantes. Donc malheureusement, on risque de les avoir dans quelques années ou quelques décennies grand maximum. On risque de les voir déferler sur notre pauvre Europe. Et à ce moment-là, on n'aura plus que les yeux pour pleurer, puisque notre pharmacopée, elle, aura... Alors, on a aussi beaucoup de bâtons dans les roues, hein, de la part des pouvoirs publics. Tout récemment, vous en avez entendu parler certainement, c'est la disparition programmée des teintures mères.
Oui.
Pour des raisons ridicules, parce qu'en fait, bon, on a beaucoup parlé de l'Europe ces temps-ci, mais c'est une directive européenne qui date de plus de 20 ans, qui, en fait... impose à l'homéopathie de commencer à une certaine dilution. Mmh. À la deuxième centésimale, on est en homéopathie. En dessous, on ne l'est pas. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, quand on a vu passer ça, on n'a pas fait vraiment attention. Or, le corollaire, c'est que ce qui est en dessous de la dilution 2CH, donc c'est une dilution au 10 millième, hein, pour les gens qui ne connaissent pas les dilutions homéopathiques, pour des raisons peut-être d'innocuité, mais il y a une bonne innocuité de la plupart des teintures mères. Donc les teintures mères, qui sont les souches de base, du coup, doivent obtenir une AMM, une autorisation de mise sur le marché, qui coûte très cher et les laboratoires ne veulent pas faire l'effort de présenter en fait à l'AMM ces teintures mères qu'ils ont historiquement, dont ils ont été les garants historiquement depuis plus de 50 ans.
Et c'est bien regrettable parce que les teintures mères sont plus efficaces.
Oui, bien sûr. Ah ben, il y a des choses qui sont complètement farfelues. Je vois des plantes, je suis persuadé que, enfin, pour rentrer un peu dans la technique, si vous voulez, le remède homéopathique fait l'objet d'une pathogénésie. Hein. Donc, on expérimente chez l'homme sain et on observe des symptômes. Mais ces pathogénésies, je suis persuadé que pour certaines plantes qui sont courantes, elles n'ont pas été obtenues. Or, vous avez donc on ne sait pas si le produit dilué est efficace ou pas, mais il est évident que plus on dilue, et surtout dans des basses dilutions, on a moins d'effet que quand on a le produit concentré. Donc, un produit, une teinture mère, ne va plus exister, même si c'est plus une question de déremboursement, n'existera plus, ne pourra plus être sur le marché, alors que soit dilution en 4e CH ou 5e CH sera autorisée, alors qu'elle n'a manifestement aucun effet. On marche sur la tête, c'est ubu.
Oui, complètement. Je voudrais rebondir sur le problème de pollution dont vous parliez tout à l'heure.
Très, très important.
Concernant l'antibiothérapie, justement, ne pensez-vous pas que nous sommes allés trop loin ? C'est-à-dire que ça engendre des problèmes de résistance et de pollution, évidemment. Et or, nous savons que certaines plantes sont aussi efficaces, voire plus, et avec moins de résistance. Bon, ça coûterait peut-être moins cher à la sécurité sociale d'utiliser ces plantes. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais absolument. Alors, c'est vrai que c'est un excellent sujet, le sujet de l'antibiothérapie. Les antibiotiques, dans les années 40, 40-50, quand ils sont arrivés sur le marché, ça a été une révolution, une véritable révolution, puisqu'évidemment, ils ont permis de neutraliser beaucoup de problèmes qui étaient des fléaux. Mais quelques décennies après, vous voyez, je prends toujours le terme de décennie, parce que finalement, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Maintenant, on a le problème inverse, c'est-à-dire qu'on a à la fois les effets indésirables, et puis surtout des problèmes de résistance qui se sont développés. Et les laboratoires, on a cru pendant un temps que la recherche était continue. Les laboratoires butent maintenant sur le problème des antibiotiques. Il n'y a plus de nouvelles classes d'antibiotiques qui sortent. Hein. Donc on se débrouille avec les moyens du bord. Alors il y a de nouveaux antibiotiques, mais toujours dans des classes existantes. Et finalement, ben, les médecins sont relativement limités. On a pas mal de germes maintenant qui deviennent résistants. Alors, pour concurrencer les antibiotiques, je ne vais pas prétendre que la phytothérapie et l'aromathérapie concurrencent directement. Il y a quand même des pathologies lourdes pour lesquelles il est nécessaire de prendre des antibiotiques. Mais il faudrait les réserver à ces cas-là. Quand je vois des rhinopharyngites de l'enfant qui normalement ne devraient pas, hein, les consensus de nos confrères spécialistes disent qu'il ne faut pas utiliser des antibiotiques, bon, bah, c'est vrai que les médecins sont un peu démunis, les patients aussi, les parents de petits-enfants qui ont des rhinos disent « Ah bah vous ne me donnez pas d'antibiotiques, docteur, il ne va pas guérir suffisamment vite. » Bon, voilà, et on ne fait pas suffisamment bien passer le message, et surtout les médecins n'ont pas d'alternative. Si on avait les alternatives que la phytothérapie offre, avec des suppositoires aux huiles essentielles par exemple, quand on sait les maîtriser, c'est remarquable. Ça nettoie une petite rhino en 2-3 jours. Avec des plantes, il y a énormément de plantes dont les principes actifs sont antiseptiques, antibiotiques, anti-infectieux, antiviraux, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup. Les huiles essentielles, on en a parlé. Et puis, il y a aussi des immunostimulants dans les plantes. Il y a des plantes qui ont des propriétés validées maintenant d'immunostimulation, donc qui permettent de traiter en amont. Donc, enfin, tout ça mis bout à bout, si vous voulez, c'est évident qu'il y a un potentiel, un réservoir. Donc, c'est vrai, la médecine de demain. C'est une médecine qu'il faudra développer. Regardez maintenant l'engouement qu'il y a dans un autre domaine pour le bio, pour la nourriture saine, etc. Vous voyez des rayons bio qui fleurissent, des coopératives bio qui fleurissent sur le territoire. Les gens en ont marre de manger de la...
Oui, comme vous
je
dites.
Je ne précise pas. Voilà. Donc, ils ont envie, ils ont besoin de se tourner vers des méthodes beaucoup plus naturelles. En médecine, c'est pas encore passé. C'est pas encore passé. Et les médecins, si vous leur dites aux médecins qu'ils polluent avec leurs médicaments, bah, ils vous regardent avec des yeux ronds. Hein. C'est pas passé du tout. Or, et puis la pollution des nappes phréatiques, des rivières, c'est une chose, et la pollution intérieure, hein, c'est une autre chose. Donc, on n'a pas encore cette notion-là qui est rentrée en ligne de mire, en ligne de en compte, alors que c'est très important. Et les extraits de plantes sont prélevés dans l'environnement, retournent dans l'environnement après qu'ils soient absorbés et métabolisés dans l'organisme. Donc il n'y a pas de mécanisme de pollution. Hein. C'est très très important ça. Tandis que la chimie industrielle du médicament, elle, c'est une chimie très très polluante. Alors encore une fois, je ne veux pas dénigrer les médicaments, on en a besoin, mais vraisemblablement, on ne peut pas donner de chiffres, mais au moins 50% des médicaments sont prescrits en excès et il y a une énorme place pour les traitements naturels que les médecins, malheureusement, ne connaissent pas. Alors, on a des formations en phyto et en aromathérapie, comme à Besançon. Hein, je fais un peu l'apologie de ma région, puisqu'on a créé il y a une quinzaine d'années maintenant un diplôme universitaire à Besançon. Et il y a des diplômes universitaires qui fleurissent un peu partout sur le territoire. Il y en a à Paris, à Montpellier, à Limoges, à Marseille, etc., etc. Enfin, j'en oublie, à Clermont-Ferrand, à Nantes. Voilà. Ça fleurit véritablement, ça se développe énormément. Pourquoi ? Malgré les bâtons que nous avons dans les roues, eh bien, les médecins et les pharmaciens, puisque c'est réservé à ces professions médicales, sont intéressés, sont vraiment passionnés par ces domaines. Et on n'a pas beaucoup de stimulation, si vous voulez, par les pouvoirs publics. Alors que ça serait de première nécessité que de pousser, au contraire, la formation, l'information d'abord et la formation des médecins dans ces disciplines.
Bien sûr. Et dites-moi, à ce propos, vous avez parlé des médecins qui ne savent plus prescrire autrement que des molécules chimiques. Il me vient une question d'ordre un peu plus philosophique. Il y a un hiatus entre la science et la tradition. La science s'est coupée de la tradition et ça a donné ce qu'on appelle la technoscience. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est là aussi le problème ?
Absolument, absolument. Alors, je ne veux pas dénigrer mes confrères médecins parce que je sais très bien comment se fait la formation médicale. Elle est très riche, elle est très complète, elle est déjà énorme. Alors bon, c'est vrai que les médecins ont déjà plusieurs années de formation. Si en plus on leur demande de faire de la phytothérapie, de l'homéopathie, de l'acupuncture ou de la psychothérapie ou d'autres techniques, ça va être très compliqué. Mais rien n'empêche, en fait, dans les dernières années, surtout dans les années de formation à la médecine générale, de faire des petits stages, ce que nous appelons des séminaires, des post-formations, si vous voulez, qui ne serait pas très longue ni très compliquée. Vous voyez, le diplôme universitaire de Besançon, par exemple, c'est 80 heures. Alors, on n'apprend pas, je suis bien placé pour le savoir, la phytothérapie, l'aromathérapie en 80 heures. Mais en 80 heures, on a déjà une formation très complète sur les formes galéniques, la forme de présentation de la plante, un peu sur la botanique, sur les présentations, les associations qu'on peut faire, sur les thématiques que nous développons. Et surtout, les médecins ont un sens critique qui se développe vis-à-vis, bien sûr, des produits de phytothérapie et même vis-à-vis des médicaments. Parce que quand vous apprenez que tel ou tel mélange de plantes ou plantes peut traiter telle ou telle pathologie de manière simple, et que vous n'avez pas besoin d'avoir recours à certains médicaments, ben finalement, vous devenez critique vis-à-vis de la pharmacopée. Or, je pense que cette critique intrinsèque de la pharmacopée qui est obtenue, je dirais, par la formation en phyto- et aromathérapie, elle peut gêner aux entournures, surtout les laboratoires. Donc, on gênera des choses établies. Hein.
Mm-hmm. Alors, j'ai une autre question. Donc, vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment des négociations sur le traité de grand marché transatlantique qui se négocie en ce moment à Bruxelles entre l'Europe et les USA et qui permettrait, bon, je vous la fais courte, qui permettrait aux multinationales d'attaquer les États pour entrave à la liberté du commerce.
Ça, c'est terrible. La question est politique. Vous avez raison. C'est incroyable que le commerce soit le seul moteur, en fait, de la société.
Et là, je pense à l'emploi des plantes comme recours aux antidépresseurs classiques, par exemple. Et on peut tout à fait imaginer des recours contre les prescripteurs de plantes et aussi contre les producteurs. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, écoutez, si ça va jusque-là, franchement, c'est à désespérer de l'espèce humaine, hein, parce que, bon, on peut quand même garder un certain bon sens. C'est évident. Je sais que ça a de fortes chances d'arriver, et puis il y aura certainement des abus. Et comme toujours en pareil cas, malheureusement, ce sont les grandes firmes multinationales qui ont parfois plus d'argent que les États eux-mêmes qui vont l'emporter. C'est évident parce qu'elles sont elles sont en sous-main un peu partout, hein, dans toutes les instances, à Bruxelles, à Washington, etc. Ils sont cernés par les multinationales qui s'infiltrent un peu partout. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'un petit producteur de plantes ou qu'un prescripteur de plantes médicinales puisse faire face à cette mécanique implacable ? Non, mais vous avez parfaitement raison, c'est dramatique. Hein. Il faut peut-être travailler sur le plan politique pour que les politiques mettent le holà et bloquent. Hein. Je sais que c'est possible au niveau de l'Europe, mais bon, l'Europe en ce moment est assez malade.
Et oui.
On va lui laisser un peu le temps de se remettre de ses émotions. Mais en tout cas, oui, ça peut être le travail des députés européens, par exemple, hein, d'être extrêmement vigilants et puis de conserver. Parce que nous avons, bon, aux États-Unis aussi, ils ont une tradition. C'est souvent une tradition amérindienne, hein, pour les préparations, enfin pour les plantes médicinales. Mais ils pourraient aussi penser à préserver leur tradition. Et certains aux États-Unis y pensent également, le font. Hein. Il y a pas mal de mouvements comme ça qui sont orientés vers l'écologie, mais peut-être pas suffisamment. Et puis en Europe, on a des intérêts qui sont un peu disparates aussi. C'est dommage.
Et à ce sujet, justement, je sais qu'il y a une plante, je ne me rappelle plus laquelle, qui oui. était traditionnellement utilisée par les Amérindiens et qui a été brevetée par un labo. Et de ce fait, les Amérindiens n'ont plus le droit de l'utiliser. C'est quand même scandaleux.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, j'ignorais par rapport à une plante amérindienne, mais il y a beaucoup de plantes amérindiennes, effectivement, qui sont rentrées après dans la pharmacopée homéopathique, par exemple, hein, parce que ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que l'homéopathie, dans les années 1900-1910, était extrêmement développée aux États-Unis. L'école de Kent, un grand homéopathe américain, donc l'échinacée, le mésereum, le baptisia, des plantes comme ça, c'est des plantes amérindiennes. Donc on retrouve dans notre pharmacopée française maintenant. Mais oui, il y a une autre plante, c'est la levure de riz qui a été brevetée pendant un certain temps et qui ne pouvait plus être vendue en tant que complément nutritionnel pour faire baisser le cholestérol. Mmh. Apparemment, ça a été levé puisque maintenant on peut trouver de nouveau cette substance. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple. C'est en fait l'ancêtre historique des statines, la levure de riz. Mmh. Donc il faut l'employer avec prudence. Et je pense de préférence par les médecins. Hein. Donc on commence à voir s'ouvrir ce marché aux non-médecins et ça peut être dangereux. C'est pour ça que je prône, moi, avec les confrères qui nous ont rejoints au syndicat national de la phytoaromathérapie, qui regroupe donc des médecins, des pharmaciens et des prescripteurs autorisés, donc sages-femmes, dentistes, vétérinaires. Nous nous sommes regroupés au sein de ce syndicat pour justement défendre cette prescription médicale. Ce qui n'empêche pas que le public puisse bien sûr subvenir à sa propre santé, hein, se prendre en charge, c'est très important. Mais certaines prescriptions devraient être réservées à la prescription médicale.
Bien, bah écoutez docteur, je vous remercie d'avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps sur ce sujet. C'est un sujet passionnant.
Tout à fait. Oui,
j'espère
tout à fait.
Que notre conversation va édifier les auditeurs de Radio Barthas.
Mmh. Eh ben avec grand plaisir et merci de m'avoir invité.
Je vous en prie. Au revoir, docteur.
Au revoir, monsieur.
On va continuer dans la médecine avec la chanson « J'ai un bouton sur la langue ».
Voilà mal à manger, j'ai un bouton sur le bout du nez. Quand je viens pour regarder, je vous dis que ça me fait loucher. Je vous assure, c'est bien souffrant, ça me fait du mauvais sang. Je me suis fait une bonne onguin, bien guéri d'un pas grand temps. Puis j'en ai sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer. Une nerf du cou qui est aussi grand que 30 sous. J'en ai un sur le menton qui est aussi gros qu'un citron. J'en ai un autre sur le bord de l'oreille qui me sert de pendant d'oreille. Je vous assure qu'il ternisse pas son garantie 14 garants. Puis j'en ai un sur le bout de la langue qui m'empêche de turluter. Ça me fait bégayer. J'ai de la misère à marcher, je ne m'ordure en dessous du pied. Quand je mets mes boussillers, je vous assure, ça me fait boiter. J'ai fait ça l'été passé, quand j'étais au Saguenay. C'est à mon allant baigner, une écrevisse m'a pincé le pied. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue et qu'il m'empêche de turluter. Puis ça m'a fait bégayer. Il y a des fois je rhumatise, et d'autres fois j'ai la piquite. Quand je mange la soupe au pot, j'ai des brûlements d'estomac. Pour guérir mon mal de rein, je mange des crêpes de sarrasin. Si ça continue comme ça, ils vont chanter mon libéron. Puis j'ai un bouton sur le bout de la langue et qu'il m'empêche de turluter. Puis ça me fait bégayer. Si vous êtes comme ça, mes amis, ça veut dire que vous êtes mal pris. J'ai un conseil à vous donner, vous êtes mieux de vous faire soigner. Avant que ça aille trop loin, allez voir le médecin. Quand on apprend trop longtemps, ça finit par un enterrement. Puis j'ai un bouton, c'est le bout de la langue et qui ne m'empêche de tirer du nez. Puis ça me fait
Eh bien voilà, c'était la dernière émission de la saison. Je vous propose donc de nous retrouver à la rentrée pour de nouveaux sujets et de nouvelles aventures. Et vous pouvez bien sûr écouter Alternative sur www.radiobartas.net. Salut !